suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain.
Nom de Zeus.
Le coup de foudre, c'est ça.
De 13h à 14h, Georges Verna et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune.
À vos casques prêts, radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Notre beau pays de France est réputé pour sa cuisine, pas vrai? Ça tombe bien, j'ai l'impression qu'on est en ce moment dans une marmite. Bien sûr, ces dernières années, on a quand même sorti des trucs passés. Les scandales politiques à tout va, le combat du mariage pour tous, récemment le Covid. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a le cul dans l'eau bouillante. D'un côté, la révolution féministe, comme l'indique le grand tag en rose à côté de la radio, qui se densifie chaque jour un peu plus pour le meilleur et pour le pire. On voit émerger toutes sortes de choses, des mouvements radicaux anti-féministes aux États-Unis, par exemple, à des mouvements radicaux pro-femmes, tout ce qui a un pénis est une erreur, et fort heureusement au milieu, un féminisme progressiste qui veut du dialogue et de l'égalité, sans jeter tous les hommes, soit l'autre moitié de l'humanité, dans une benne à ordures. De l'autre, cette réforme des retraites qui provoque un raz-de-marée en France et sur laquelle, par manque de temps et certainement un peu par lâcheté, je ne m'étendrai pas. Violence terrible des lois imposées au peuple, violence terrible des groupuscules masqués. Qu'est-ce qu'un petit bourgeois comme moi, amoureux d'art et de dialogue, comprend à tout ça? Mais si mon intellect a du mal à l'appréhender, mon nez le peut. Car la grève des ordures ménagères qui accompagne la résistance sociale actuelle nous montre tout. Voici les montagnes de déchets que nous produisons jour après jour. Voici les centaines de daubes, d'habitude vite disparues, qui nous regardent dans les yeux. Et surtout, dans les narines. Elles disent, il suffit qu'un métier s'arrête quelques jours, un métier souvent raillé ou méprisé, et les innombrables cadavres de la consommation nous ensevelissent déjà. Bref, aujourd'hui il pleut, un peu moins d'ailleurs là tout de suite, mais et ça tombe bien, on s'appelle Coup de foudre. Pas d'inquiétude, notre foudre à nous est bienveillante et va vous réchauffer les oreilles. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. À ma gauche, Aurélie, qui nous parlera d'urbanité et de contestation, je crois.
Oui, bonjour Georges.
Bonjour Aurélie. Et à la réalisation, l'ami Guillaume, qui a une impressionnante collection de CD d'ailleurs, pour l'anecdote. Salut Guillaume.
Salut Georges.
Et exceptionnellement, Camille ne fera pas de chronique, elle rentre de Paris et c'était un peu short pour elle. Donc je vous lirai un petit texte à la place de sa chronique. Et aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons Amélie Alain, ébéniste et restauratrice de meubles. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Merci.
Après avoir fait des études de droit, tu as travaillé comme juriste en droit de la santé pendant 10 ans. Plus en phase avec ce métier, tu as changé de parcours pour te diriger vers un métier de la main. Ébéniste et restauratrice de meubles, je le disais. Depuis, tu tiens la boutique Ébénistory dans le quartier de Chantenay à Nantes. Tu valides?
C'est ça.
Mais avant d'entamer les marqueteries radiophoniques, je te propose un rabotage supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions, tu dois choisir entre deux réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre, tant que tu vas vite. T'es prête?
Prête.
Vitesse ou lenteur?
Lenteur.
Sucré ou salé?
Sucré.
Droit pharmaceutique ou droit des patients?
Droit des patients.
Vote ou abstention?
Mon cœur balance.
Ville ou campagne?
Les deux.
Ok. Mèche en spirale ou mèche plate?
Spirale.
Mmh. Thé ou café?
Thé.
Ok. Penser ou vivre?
Vivre.
Mmh. Chat ou chien?
Les deux.
D'accord. Boulot ou ébène?
Ébène.
Mmh. Organisé ou bordélique?
Organisé.
Ok. Passé ou futur?
Présent.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview qui, historiquement, n'a pas de jingle dans Coup de foudre. Et donc, c'est l'heure du jingle à la bouche. C'est tout de suite. Jingle très percussion aujourd'hui. Intéressant. Donc, Amélie, je te propose de commencer par l'enfance, qui est quand même la source de tout, ou presque tout. À quoi ressemblait la tienne?
bonne question, en fait. En tout cas, je ne baignais pas forcément dans les métiers du bois ou de l'artisanat. J'ai pas grandi dans une famille d'artisans ou même d'indépendants. Mais voilà, en tout cas, j'étais quand même entourée déjà de meubles chinés avec l'amour des choses qui ont déjà du vécu, tout ça. Ça, je pense que je l'ai gardé quelque part.
D'accord.
Mais sinon, finalement, rien qui ressemblait de très près à ce que je peux voir aujourd'hui ou vivre aujourd'hui.
D'accord. Il y avait quand même peut-être quelques brocantes ou des choses comme ça.
Exactement.
Que tu faisais.
Exactement.
D'accord.
C'était finalement, oui, voilà. Ça pouvait occuper un peu le temps. Et puis aussi, voilà, pas mal d'apprentissage de la nature, du nom des fleurs, des choses assez liées à la terre malgré tout.
D'accord.
Mais dans une vie quand même assez, assez trépidante.
D'accord. Campagne, du coup, ou...
Plutôt campagne, mais qui s'est vite urbanisée, mais plutôt campagne.
D'accord. Et donc, faisons un petit bond dans le temps. Après avoir eu peut-être le bac, tu finis tes études de droit, tu te lances donc comme juriste en droit de la santé. Pourquoi cette branche du droit, spécifiquement ?
Y avait un vrai attrait. Alors là, pour le coup, ça peut être vraiment lié à la famille. J'entendais quand même parler pas mal patients, etc. Ma mère était infirmière de nuit. Et voilà. Et en fait, je ne sais pas si c'était plus par opportunité ou par vrai choix à l'époque. Mais en tout cas, ça m'a semblé être la meilleure des options dans ce qui se proposait à la fac à ce moment-là pour se spécialiser.
D'accord.
Et ça m'a assez plu.
D'accord. Très bien. Et tu vas quand même faire ce travail pendant 10 ans de ta vie, c'est pas rien.
Ouais.
Si tu essaies de te remettre dans ton état d'esprit de l'époque, c'est quoi ton quotidien ? Qu'est-ce qui te mène à ce moment-là ?
Vraiment de pouvoir aider, finalement. Pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice, de conseiller, de pouvoir orienter dans un monde juridique quand même de plus en plus complexe, qui évolue de plus en plus vite... l'idée, c'était quand même de pouvoir servir un petit peu de guide là-dedans.
D'accord.
Et de pouvoir arriver à servir à quelque chose, pouvoir orienter et conseiller. C'était vraiment ça.
Je comprends. Ouais. Et en fait, le métier, concrètement, d'un juriste en droit de la santé, justement, qu'est-ce que c'est déjà pour peut-être renseigner les auditrices, auditeurs qui ne savent pas trop ?
En fait, je pense que ça a pas mal de facettes, mais pour ma part, vu que je travaillais dans une entreprise... qui gère des maisons de retraite, des établissements de santé. En fait, moi, mon principal travail, c'était d'aller chercher des autorisations pour éventuellement essayer de compléter géographiquement une offre de soins qui est, on le sait, pas forcément toujours homogène.
Mm-hmm.
Donc, je pouvais trouver vraiment un sens à ça.
D'accord. C'est pour ça que tu répondais aussi droit des patients dans le quiz éclair. Quoi. Mmh. Donc tu es quand même, t'es proche des gens, tu essaies de protéger les droits des gens, etc.
Voilà, c'est ça.
D'accord, très bien. Et à un moment, alors que tu attends un enfant, il y a un déclic en toi. Tu te sens un peu dans un moule, pas à ta place, c'est ce que tu me disais. Et donc, est-ce que c'est foudroyant un jour? Ou est-ce que c'est venu graduellement au fil de ces 10 années de pratique
C'est plutôt la solution numéro 2, effectivement. C'est venu graduellement au fur et à mesure. De plus en plus, en fait, l'aspect masque, l'aspect contraint, l'aspect lutte aussi que j'avais dans cette ancienne vie, me déplaisait de plus en plus, en fait, ne me correspondait plus. Et petit à petit, en fait, ça a été quand même des périodes de tourment parce qu'on sent qu'on n'est plus fait pour ça, mais en même temps, on ne sait pas encore pourquoi on est fait. Donc ça, c'est une vraie transition pas facile à vivre.
Mmh.
Et finalement, une fois, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est effectivement le déclic d'attendre un enfant et de savoir quoi lui transmettre. Mais... disons que ça a timé ma réflexion, mais elle a été vraiment graduelle et longue.
D'accord. Ben oui, c'est toujours cette inquiétude dont on parle souvent, d'ailleurs, à coup de foudre avec les invités. Ce truc de on a fait quelque chose, il y a le confort, il y a l'habitude, il y a la vie qu'on mène depuis 3, 4, 5, 10 ans. Et puis cette chose après, quoi, qui fait peur, qui on se dit, mais où est-ce qu'on va, en fait ? Qu'est-ce qu'on devient ? C'est inquiétant. Mais en tout cas, voilà, tu décides que ta vie va changer à ce moment-là. Tu aimes le bois et le métal. Et après avoir essayé les deux, c'est le bois qui l'emporte. Mmh. Tu passes donc un CAP d'ébéniste. Après avoir été juriste, est-ce que c'est bizarre, grisant, évident au moment où tu le fais ? Parce que, au moment où tu prends la décision, tu es dedans. Est-ce que c'est... Pour toi, il y a une évidence ou tu es encore un peu dans la bizarrerie de la chose ?
Alors, peut-être un peu les deux, mais je t'avoue que la balance a vraiment penché pour l'évidence. Et autant, tu vois, on parlait il y a 30 secondes de toute cette lente évolution dans mon cerveau. Et il y a eu un moment où, vraiment, quand il a fallu foncer, voilà, je ne me suis plus posé aucune question. Mmh. Et très bizarrement, et tout a été évidence. Et en plus, finalement, un peu alignement dans l'histoire. Des bons stages, des bonnes rencontres, jusqu'à arriver à ce fameux atelier magique. Et...
Justement, ton second coup de foudre, tu me fais mes transitions, c'est merveilleux. Lors d'un stage chez un ébéniste spécialisé en restauration de meubles, tu te découvres un amour pour les objets en fait, cassés, anciens, à qui tu as envie de redonner un second souffle, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Tu sais, cette sensation où je ne m'attendais pas forcément à ça ce matin-là. Mais quand je suis arrivée à ce premier jour de stage donc chez un de mes formateurs, vraiment, quand j'ai mis les pieds là-bas, je me suis dit « Ah ouais, bah c'est ça, en fait. Mm-hmm. » Et il n'y avait plus d'autres non plus questions à se poser. C'est-à-dire que déjà, j'avais eu cette évidence pour le bois à un moment, de passer cette formation, de baigner dedans. Et puis après, le bois, c'est très vaste. Donc, il a fallu un petit peu réduire la voilure pour... savoir finalement ce que je pouvais faire de ça, où était ma place dans le bois, enfin, qu'est-ce que j'aimerais faire. Mmh. Et voilà, c'est ça, ce déclic-là, je l'ai eu ce jour-là, de me dire, ouais, là je pense que prendre soin des vieilles choses, ça m'intéresserait vraiment.
Je comprends. Et c'est intéressant, ça entre vraiment en résonance avec ce que nous disait Patrice Blanc, un luthier nantais qui était venu. Et ben, il a eu un peu le même coup de foudre que toi, mais lui c'était vraiment, je vais faire des guitares avec le bois. C'était une autre facette du coup de foudre, quoi. C'est intéressant. Eh ben, je vous propose qu'on se fasse une petite pause dans l'interview. Tu nous as choisi un morceau d'un artiste qui s'appelle Blanco White. Le morceau s'appelle Oh là là. Est-ce que c'est justement un petit coup de cœur que tu as eu récemment
ou... Ouais. Vers août-septembre l'année dernière. Vraiment, c'est un morceau qui m'a vraiment accompagnée à du lâcher prise, à être un peu dans un flow. Pas que sur le travail du bois, c'était aussi accompagner un peu ma vie qui était mouvante à ce moment-là et dans des prises de décision. On sentait qu'il fallait garder confiance en ce qui pouvait se passer de bien après.
D'accord, c'est peut-être une petite chose qui redonne la foi et qui se dit on tient bon, on y va.
Exactement.
Super, ben, on écoute ça tout de suite.
There's a story meant to be
il est 13h17 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Aujourd'hui, on reçoit Amélie Alain, qui a un parcours singulier, qui est passé donc, d'une carrière de juriste en droit de la santé à ébéniste et restauratrice de meubles. Alors Amélie, pour cette seconde partie de l'interview, on va parler justement du moment où tu reprends ton atelier de restauration, donc en 2020, dans le quartier de Chantenay, à Nantes, et que tu nommes Ébénisterie. C'était comment d'ouvrir une boutique en pleine pandémie de Covid?
Bizarre.
Oui, je me doute.
J'étais un peu tremblante, en fait. Hein. À la fois, je savais que c'était l'endroit rêvé, le job rêvé, mais le moment, c'est comme s'il était imparfait. Et il a fallu que je me détache, en fait, de cette idée de se dire que ce n'était pas le moment, quoi, faudrait que j'attende une autre occasion. Ben non, en fait, voilà. J'ai foncé, j'ai signé et c'est très bien comme ça.
D'accord. Parlons un peu donc justement de ton quotidien. Quels outils sont les meilleurs amis déjà de l'ébéniste, pour nous parler un peu concrètement?
Ouais, concrètement, quotidien. Après, peut-être que tous les ébénistes ne seront pas d'accord. Je vais juste donner comment j'aime travailler. Mais j'allume assez peu les machines, donc... Je ne sais pas si tout le monde se retrouverait là-dedans. Hein. Je travaille assez facilement avec le rabot, le ciseau, le guillot, la râpe. Et voilà.
Qu'est-ce que c'est le guillot, par exemple?
Parce que Guillaume
est curieux de savoir ça aussi, je suis sûr.
C'est vrai. En fait, c'est une sorte de rabot, mais qui va être plus fin, en fait, qui va permettre de creuser le bois à certains endroits.
D'accord. Ouais, sans te creuser trop profond, du coup. Creuser
non, tu vas pouvoir, pareil, faire des tout petits copeaux à certains endroits pour recréer une rainure, une feuillure, mais c'est plus fin.
Donc le guillot est un outil délicat.
Le guillot est un outil délicat.
Très bien. Et quelles sortes de travaux reviennent chaque jour, en fait, constituent en quelque sorte la colonne vertébrale de ce métier?
J'ai pas mal de petites réparations pour des objets du quotidien, ce qui me tient à cœur, en fait. On n'est pas obligé de toujours que mettre de la valeur dans la restauration d'un objet d'art. Mmh. Ces petits objets du quotidien, il y a pas mal de collages où j'utilise la plupart du temps des colles à l'ancienne.
D'accord.
Des colles de poisson, des colles chaudes avec des colles composées de nerfs et d'os. Comme les ébénistes il y a 80 ans. Assez souvent, le matin, quand j'arrive, finalement, il y a à défaire tous ces collages, donc à enlever tous les serre-joints. Et c'est une opération que j'aime bien, parce que finalement, on voit si tout a bien fonctionné, si le bois s'est bien consolidé, si on peut passer à l'étape suivante.
D'accord. Oui, ça, c'est quelque chose auquel quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à ton métier comme moi ne pense pas, mais c'est qu'il y a des moments de travail, donc les moments de travail actifs, et il y a des moments aussi d'attente, de patient, en fait, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Mm-hmm. Je me rappelle quand je suis rentré dans ton atelier, justement, j'ai vu, je ne sais plus si c'était une chaise ou quoi, mais qui était bardée justement de c'est ce que tu dis.
Serre-joint.
Serre-joint, voilà, et qui donc, elle, attendait patiemment pendant plusieurs heures que ça tienne, quoi, en fait.
Oui, c'est ça. D'accord. En plus, selon l'école, tu vas avoir des temps de séchage plus ou moins longs, donc. C'est obligatoire de les respecter, sinon le travail ne peut pas se faire. Et puis pour les autres phases, c'est pareil, des phases de vernis au tampon ou autre, tu vas avoir pareil des phases un peu à respecter. Donc il y a toute cette lenteur qui m'intéresse, en fait, qui met vraiment un flow intéressant dans le travail, et puis qui te permet de faire des petits sauts de puce entre un objet et un autre, en fait.
Mm-hmm. Tu t'occupes d'un, tu t'occupes de l'autre,
et c'est ça, jongler entre tout ça.
Très bien. Et je suppose que dans ton métier, il y a un aspect, entre guillemets, artiste, pour peut-être créer tes propres pièces, et un autre aspect qui est l'aspect artisan, pour réparer plutôt les pièces des autres. Est-ce que c'est un équilibre à trouver?
Oui, complètement. Jusque-là, en fait, ça fait encore assez peu de temps que je suis installée rue Gutenberg. Jusque-là, je prends plus soin des objets que l'on m'apporte, d'accord, plutôt que de la création. Mais j'arrive quand même en recréant pour l'instant l'objet qui arrive parfois quand même dans un état bien délabré, je trouve une certaine création à mettre aussi là-dedans. Mmh. Ça m'appelle quand même assez fort dernièrement de créer des choses et de voilà, d'arriver à monter des petits projets, des petits objets à moi.
Parce que je suppose que, par exemple, au même titre qu'un restaurateur ou une restauratrice de tableaux, tu as peut-être une latitude qui n'est pas non plus gigantesque. Quand tu répares l'objet de quelqu'un, la personne va récupérer son objet à peu près pareil. Donc, tu ne peux pas vraiment complètement exprimer ta main pour la restauration, quoi.
C'est ça, y a une vraie contrainte, mais qui est intéressante, en fait, qui est appel de, finalement, de la technique et du respect aussi de la vie d'avant. La créativité, il y a une marge de manœuvre dans laisser la part d'histoire à l'objet et en même temps quand même lui donner un coup de neuf et un coup de propre.
Un second souffle.
Voilà.
D'accord, très bien. Est-ce que tu as quelques anecdotes sur ces 3 années à Ébénisterie, peut-être à propos d'objets étranges, curieux, je ne sais pas, très surprenants, exotiques peut-être, tu aurais reçu Sachant que la question est un peu biaisée, parce que peut-être que pour toi, finalement, une chaise, c'est déjà quelque chose d'exotique en soi. Donc,
Ça peut être très exotique et très difficile à coller, donc effectivement. mais peut-être que c'est, du coup, je ne les range pas tout à fait dans les objets coup de cœur.
D'accord.
Mais ça dépend. Après, c'est plus... mon affection s'est quand même portée beaucoup plus sur des petits objets. Des boîtes de peintre, des choses qui avaient vraiment une histoire de famille. Où, tu sais, on ouvre la boîte et là, on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Mais en fait, il y a toutes les tâches de peinture. On imagine tous les tableaux qui ont été faits avec. Et puis, voilà, des choses qui se transmettent, en fait. C'est plus ça, sans avoir de réelle anecdote, si ce n'est voilà, des messages que l'on trouve dans les meubles. Quand tu déconstruis le meuble pour ensuite le restaurer et le reconstruire, tu trouves souvent derrière les tiroirs ou dans le bâti du meuble des secrets, des lettres d'amour, les vieilles photos d'identité de l'arrière-grand-mère, voilà, ou des traces dans le bois qui sont voilà, des messages aussi pour aujourd'hui, des petits cœurs dans le bois. Que je prends à leur juste valeur.
Des messages intemporels qui se transmettent comme ça, comme le petit cœur dans les arbres, dans les parcs,
voilà.
Tu vois, on grave quoi.
Il faut savoir voir pour pouvoir le transmettre aussi et le raconter par la suite.
Bien sûr. Et est-ce qu'au fond, prendre soin des meubles ou des chaises cabossées, après avoir été juriste en droit de la santé, c'est quand même pas deux faces d'une même pièce?
C'est sûr, peut-être.
Avec le recul, je veux dire, que tu as maintenant sur ces 10 années, et puis maintenant ça fait quelques années que tu es ébéniste et que je sais pas, il y a une trame comme ça qui...
Alors c'est je pense qu'effectivement, parce que en plus je l'ai senti tout à l'heure en reparlant de mon ancienne vie qui me semble tellement lointaine aujourd'hui, mais voilà, il y a comme un fil conducteur dans tout ça, donc effectivement il y a une sorte de complétude aujourd'hui à prendre soin, et on retrouve la notion de santé que je peux apporter aujourd'hui dans des objets et que je transmets dans l'univers matériel des gens. Mais oui, effectivement, je te rejoins. Il y a une sorte de complétude, même si j'ai le sentiment que ça peut ouvrir encore à d'autres choses et on peut créer d'autres faces à la pièce.
Bien sûr, on est une pièce avec beaucoup de faces. Non, mais ça me frappait parce que justement, tu parlais de l'empreinte aussi humaine, de l'empreinte du souvenir, de l'empreinte de tout ce qui reste dans ces objets, en fait, où tu sens les vies qu'il y a eu derrière. Donc, il y a quelque chose de très humain dans ces objets aussi. Est-ce que peut-être de certains jours, tu peux presque envie de leur parler, ou je ne sais pas.
Moi, je pense que ça m'arrive.
Tu les entends. tu dis, et toi, ma petite, tu restes avec, tu restes quelques heures.
Voilà, je sais que ça m'arrive, en fait.
D'accord.
Je demandais encore hier pour un collage difficile. J'ai demandé au fauteuil d'être un peu conciliant parce que là, je peinais un petit peu et finalement, ça s'est très bien passé.
D'accord, il était peut-être un peu grognon sur le moment.
C'est
il n'avait pas envie. Moi. Oui, c'est possible. C'est possible.
On a accordé nos humeurs et ça s'est bien passé. Mais oui, effectivement, l'âme de la matière et le vivant de la matière bois. J'ai pas effectivement l'impression de prendre soin de choses inertes et inutiles.
Bien sûr, je comprends. D'ailleurs, courte parenthèse, mais parce que j'ai vu ça il y a pas longtemps, moi, que l'émission s'appelle Coup de foudre. Moi, la foudre, c'est un phénomène qui me fascine. C'est aussi un peu pour ça que j'ai nommé l'émission comme ça. Et j'ai entendu parler il y a 2-3 jours de l'art fractal. Je ne sais pas si ça te parle. L'art fractal, c'est qu'en fait, ils font circuler du courant dans du bois et ça va créer quelque chose qui s'appelle une figure de Lichtenberg, qui existe aussi sur la peau chez les personnes foudroyées. Évidemment, je ne souhaite ça à personne, mais voilà, j'ai fait des recherches là-dessus. Mmh. Et donc, ça crée des motifs fractaux dans le bois qui ressemblent un peu à des racines ou, voilà, et ils utilisent ça pour, entre guillemets, sculpter avec la foudre ou avec l'électricité dans le bois. Voilà, et j'avais trouvé ça fascinant. Je sais pas si
quelque chose. C'est vrai que c'est le noircissement, en fait, que, quand ça parcourt le bois.
C'est ça.
Ça crée des formes incroyables.
Oui, je trouvais ça dingue. Et pour finir, est-ce qu'il y a des projets pour Ébénisterie que tu souhaites partager, un message à faire passer peut-être, ou les réseaux sociaux de la boutique que tu voudrais partager ou...
Juste, n'hésitez pas à franchir la porte. Parce que finalement, on ne se doute pas qu'il y a un atelier derrière, en fait. Je vais de plus en plus à la rencontre des gens dans le quartier, mais souvent il y a quelque chose de déjà avec déjà un objectif très précis quand on rentre chez un artisan. On peut s'autoriser aussi à la curiosité sans avoir ce truc précis pour entrer dans la boutique et peut-être visiter l'atelier si ça fait envie. J'ouvre volontiers ma porte pour partager justement mon métier et voilà, ne pas hésiter à venir discuter de choses et d'autres, pas forcément que de bois.
À franchir la porte. Donc vous êtes rue Gutenberg, c'est ça?
Ouais.
À Chantenay.
À Chantenay.
Super. Bah, merci beaucoup Amélie d'être venue nous voir dans Coup de foudre. Et on va enchaîner tout de suite sur une petite trouvaille que j'ai faite il y a pas longtemps. En fait, il y a un groupe qui s'appelle The Dreadnoughts, qui est un groupe, je crois qu'ils sont canadiens, je dis pas de bêtises. Et ils sont passés, je dirais, d'une musique un peu Irish pub qui faisait il y a 15-20 ans, donc chansons de taverne, etc. Maintenant c'est plutôt de l'Irish punk. Donc ils ont rajouté quelques grosses guitares derrière et on reste dans le truc irlandais, mais ça s'est un petit peu musclé. Ils ont sorti un nouvel album il y a littéralement 2 semaines qui s'appelle Green Willow et dessus il y a cette chanson Twanky Dilio que j'ai adorée. C'est tout de suite sur Prune.
The jolly blacksmith, the best of all fellows, who works at his anvil while the boy blows the bellows, which makes his bright hammer to rise and to fall. Here's to old coal and to young coal and to no coal at all. Twanky dillo, twanky dillo, twanky dillo, 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 dillo. And a roaring parallel will bite, made from the green willow. If a gentleman calls his horse for to shoe, he'll make no denial of a one pot or two, which makes his bright hammer to rise and to fall. Here's to old coal and to young coal and to no coal at all. Twanky dillo, twanky dillo, twanky dillo, 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 dillo. And a roaring parallel of pipes made from the green willow. Here's a health to King Charlie and likewise the Queen. And to all the royal little ones wherever they're seen. Which makes his bright hammer to rise and to fall. Here's to old coal and to young coal and to no coal at all.
Vous êtes dans Coup de foudre, il est 13h34 et tout de suite c'est l'heure de la première chronique, celle d'Aurélie.
S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
Pas d'objection.
Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la clameur de la ville et de ses reflets pourpres et mordorés. Ces reflets de feu, vous savez, ces reflets que prennent le miroir d'eau ou le canal de l'Erdre, qui lèchent les murs du château des Ducs, dansent sur les façades penchées des immeubles de l'île Feydeau, sur les vitrines du centre-ville. Ces reflets, on ne les voit pas toujours, au travers de l'épais rideau de fumigène et de gaz. On y aperçoit les petits points lumineux et colorés des flambeaux, les étincelles qui transpercent ce nuage. La clameur, c'est celle des chants qui montent, des sonos qui crachent, des mains qui claquent et des tambours qui rythment le pas de la foule. Ça y est, vous y êtes ? Ami, entends-tu ? Je voudrais parler de la façon dont les corps vibrent à l'unisson. N'avez-vous jamais tremblé d'émotion au milieu d'une foule qui fait front ensemble, de cette camaraderie qui n'appartient qu'à cette circonstance, cette solidarité où c'est tout le groupe qui vous porte, où les poings se lèvent dans une chorégraphie spontanée ? Et puis les rencontres. On se raconte des récits héroïques, on se met en garde, on se soutient, on rit aussi, on crée de nouvelles danses, de nouveaux slogans, de nouvelles images. C'est la tranche de vie d'un collectif en fête et en lutte. Comment ne pas se sentir vivante, puissante, humaine, tout en priant pour ne pas finir blessée ou pire encore ? Acclamer les pyramides humaines qui se forment sur les statues, les fontaines royales. Passer par toutes les émotions. Rire au slogan créatif des pancartes accrocheuses, être bouleversé par des actes tendres et généreux d'illustres inconnus, crier sa colère, traverser sa peur, portée par une adrénaline galvanisante, sentir ce qui nous relie au-delà des mots et des corps. Et puis, être grisé par sa propre audace de dire non, de ne pas se soumettre, de se mettre, hélas, en danger. Se réapproprier la cité, marcher au milieu de la route, grimper sur les bancs et brandir un drapeau. Toute la ville doit faire place à l'expression du cri du peuple. Avez-vous déjà eu la sensation d'être au premier plan d'un tableau de Gustave Courbet, La liberté guidant le peuple ? Est-ce un rêve, un fantasme, une utopie ? Pas seulement. Quand le groupe se distend, quand les chars se retirent, quand les chants s'arrêtent, ou quand par surprise ce sont les détonations, fuir les charges, courir, s'abriter, avoir peur. Ce sont les yeux qui picotent, l'odeur de la poudre, le repli, battre en retraite. Les blessures de l'âme, le corps meurtri, l'injustice et l'arbitraire. Mais même quand l'espoir nous quitte, même quand la situation semble immuable, le sentiment d'être un tout, de ne faire qu'un, est si réconfortant et rassérénant. Ne plus être seul, crier sa colère, protester, dire non. Sortir de la docilité, relever la tête, s'extraire de la torpeur, mettre au boulot dodo, s'engager, résister. La manifestation, c'est la dignité d'un peuple qui ne veut pas mourir. Je vous laisse sur l'air de Planète brûlée. en hommage à Mathilde, la queen danseuse des manifs, et son collectif Alternativa.
Sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat.
Pas de retraité sur une planète brûlée, retraite, climat,
même combat.
Pas de retraité sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat.
Pas de retraité sur une planète brûlée, retraite, climat,
même combat.
Pas de retraité sur une planète brûlée, retraite.
Même combat.
Pas de retraité sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat.
Pas de retraité sur une planète brûlée.
Retraite, climat, même combat.
Il est 13h40 et vous êtes toujours dans l'émission Coup de foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Truc de fou.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou.
Et Truc de fou, c'est un petit peu le moment dans l'émission. Voilà, il n'y a pas de... comment dire, de frontières, de barrières établies. On fait ce qu'on veut, on parle comme on veut, le temps qu'on veut, sur les sujets qu'on veut. On échange tous ensemble sur des moments de nos vies récemment qui nous ont plu, qui nous ont enthousiasmés. Alors ça peut être voilà, des rencontres, quoi que ce soit. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a envie de lancer le bal avec une anecdote ou quelque chose? Quelqu'un?
Allez, je peux me lancer. En fait, j'étais à un événement pro et je dînais avec une collègue. Et en fait, elle s'est approchée de moi et elle m'a avoué que si elle était là, si elle était à son poste et parmi nous, c'est parce que j'avais fait une toute petite réflexion qu'il avait décidé à accepter une promotion. Et en fait, cette petite réflexion insignifiante que je lui ai faite, c'est qu'à l'époque, elle se posait 10 000 questions. Est-ce que c'était sa place? Est-ce que c'était pour elle? Est-ce qu'elle le méritait? Et je lui ai tout simplement dit qu'elle avait toutes les qualités. Et puis, je lui ai dit aussi que tous les hommes à qui on l'avait proposé avaient accepté sans se poser de questions. Alors, tous les hommes qui ne sont pas à mettre à la benne à ordures, hein, fait le lien avec l'intro de Georges tout à l'heure, mais en tout cas, cette auto-censure et ce sentiment d'imposture, c'est quelque chose que elle ressentait très fort. Et quand je lui ai fait remarquer que c'était assez féminin, ça l'a piqué au vif. Ça l'a piqué au vif. Elle a eu une réaction d'orgueil. Elle a accepté sa promotion. Et le truc de fou, c'est parfois l'impact d'une toute petite réflexion, d'un petit moment de sororité, de soutien qu'on peut penser insignifiant. Et voilà, je trouve ça super chouette et enthousiasmant. Et je vous invite à encourager les personnes autour de vous qui s'auto-censurent à tort.
Donne-moi un levier et je déplacerai le monde. Tu lui as donné ce petit levier et son monde s'est déplacé. Enfin, c'est beau. Ouais, c'est une jolie anecdote. Amélie, Guillaume, est-ce que vous avez envie de nous donner quelque chose?
Moi, j'avais pensé à parler de quelque chose dont tu as longuement parlé dans ta chronique. C'était vraiment très proche parce que, évidemment, j'ai été marqué par les grèves du mois dernier. Et il y a vraiment ce côté de faire corps avec les autres qui, évidemment, nous a manqué pendant le Covid et ce genre de choses que je retrouve souvent dans les concerts. Et c'est pour ça que j'adore aller aux concerts aussi, parce qu'il y a ce côté, à un moment, il y a un truc qui se passe et on se retrouve tous ensemble devant un spectacle, devant un concert, et on oublie ce qui se passe autour et on fait corps. Et dans les manifestations, là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ça. Et je trouve ça assez rigolo parce que souvent, c'est le sentiment de faire corps est très lié au ressenti qu'il y a dans les médias le lendemain en disant la mobilisation était en hausse, en baisse. Et je trouve que ce sentiment suit vachement ça. Il y a eu beaucoup de différences dans les manifestations qu'il y a eu. Et les dernières, il y avait un sentiment de corps encore plus fort. Et je trouve ça assez important. Voilà, le truc de fou, c'est de voir que ce truc existe encore, qu'il est même renforcé, alors qu'en face, il n'y a pas du tout de discussion, de négociation. On a l'impression d'être des enfants avec des parents qui leur tapent sur le dos sans chercher à comprendre ce qui se passe. Et du coup, voilà, je trouve que ce sentiment de faire corps est hyper chouette. C'est ça mon truc de fou de ces temps-ci.
Oui, et je suis complètement d'accord avec toi sur le côté condescendant, comme si c'était un groupe d'enfants débiles qui dit « gni 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 », tu sais, et puis qu'il faut les mater, alors que, le peuple... Mais tu vois, c'est intéressant parce que d'une certaine façon, ça fait un petit peu écho avec ce que moi j'avais envie de vous partager, sauf que c'est... moi, j'ai vu ce sentiment-là souvent dans la danse, mais dans la danse aussi soliste, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une espèce de vibration dans un seul corps et que ce corps trouvait son unité et sa vraie liberté en dansant, alors qu'on est tellement comprimé au quotidien dans tout un tas de trucs qui nous empêchent d'être des fois vraiment nous-mêmes ou de nous libérer. Et j'ai vu ça dans le film Ouria, du coup, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est peut-être encore visible au 14A, si je ne dis pas de bêtises, à Nantes. C'est donc l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ouria, qui vit en Algérie, et le soir, elle participe à des paris illégaux, donc sur des combats de béliers. Voilà, qui se font là-bas. Et en gros, il parie sur tel ou tel bélier qui va gagner. Et comme tout pari, il y a un gain si vous avez bien parié. Et un soir où elle a gagné un peu gros, elle se fait agresser, elle tombe d'un escalier et elle se brise la cheville à trois endroits. Et du coup, on va lui poser une plaque métallique. Elle ne pourra plus jamais danser comme avant, évidemment. Et donc, c'est un film qui parle de ça, qui parle de la reconstruction, qui parle de comment on fait après. Et d'ailleurs, j'ai pensé au film Encore aussi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Clapiche, je crois, qui parle un petit peu de ce genre de drame-là. C'est un film qui est très, très généreux. Donc, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de musique, ça vous donne beaucoup. Et en même temps, qui est aussi très dur. C'est-à-dire que le personnage n'est pas épargné. Par exemple, elle a une amie qui essaye de partir illégalement en Zodiac de l'Algérie vers l'Espagne. Et voilà, c'est parfois assez dramatique, ce genre d'entreprise, malheureusement. Et donc, c'est un film qui est à la fois très joyeux et très triste. Et comme la vie, je trouve. Donc c'est superbe, ça s'appelle Ouria et franchement c'est à voir, n'hésitez pas. Voilà. Et sur ce, je vous propose qu'on enchaîne avec le choix de musique de Guillaume. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton choix musical?
C'est assez lié du coup à cette idée de faire corps. Je me pose toujours, j'écoute beaucoup de musique et je me pose toujours la question de savoir ce que les autres écoutent. Et parfois, j'ai l'impression d'être complètement séparé d'une partie de la population, assez importante. Et quand je tombe sur un morceau comme ça qui est très éloigné de ce que j'écoute, je me reconnais pas du tout dans les paroles. Ça parle de gagner de l'argent et d'en gagner plus et de, en gros, gagner de l'argent pour pouvoir rien faire après. Du coup, ça me pose toujours question. J'ai envie de pouvoir comprendre les gens qui écoutent ça et pas d'être campé sur mes positions et de me dire que ce que je pense, c'est la vérité. Donc ça me permet écouter de la musique comme c'est ce que je fais le plus. C'est souvent la chose qui me permet de sortir un peu de mon cadre. Et donc là, on sort complètement de mon cadre. D'ailleurs, le choix de musique t'a étonné. Et en même temps, je trouve que le morceau est hyper efficace et il reste dans la tête. Ce qui est bien ou pas bien, mais c'est quand même
Ça
toujours le
marche,
signe d'un
ça
morceau
marche
qui est
clairement,
réussi,
oui.
quoi. Donc voilà, ça s'appelle Letty. Ride It Toute la Night. Déjà tout un programme. Mais en vrai, j'adore le morceau. Et l'artiste, c'est Letty.
Ride on.
J'ai beaucoup de choses dans la tête, je veux aller au bout de mes rêves. Depuis tout petit, on m'a dit faut beaucoup d'oseille. Donc je mets tout dans ma peine, ou je mets tout dans mon terre. J'espère qu'ils comprendront que je suis très loin de la terre. 3 millions c'est pas assez. Pourquoi je ne pense qu'à brasser? Ouais, je veux quitter le quartier. Une vie sur la mer, un cocktail et me faire masser. Ouais, on voulait juste être libre, profiter de la vie. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite. Tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. Alors je prie, crois-moi, je fais mon possible pour que mes rêves se réalisent. On va rider toute la night. Rider toute la night. On va rider toute la night. Rider toute la night. Ils essaient de prendre le trône, ouais, dis-leur qu'ils essaient. J'en ai vu des signes, j'en suis pas à mon coup d'essai. J'ai combattu la jungle, combattu le Banks. J'suis dans les hautes sphères. Viser la tête si tu veux me voir tomber. Ouais, pour l'instant pas trempé. Ouais, j'ai de l'empire de Tanger. Déboussolé partout, je me sens étranger. Ouais, 3 millions c'est passé. Pourquoi je ne pense qu'à brasser? Je veux quitter le quartier. Une vie sur la mer, un cocktail et me faire masser. Ouais, on voulait juste être libre, profiter de la vie. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite. Tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. Alors je prie, crois-moi, je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent. On va rider toute la night. Rider toute la night. On va rider toute la night. Rider toute la night.
Il est 13h51 et vous êtes dans Coup de foudre. Tout de suite, c'est l'heure, non pas de la seconde chronique, du coup, puisque Camille n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle est rentrée de Paris, était assez fatiguée. On pense à toi, Camille, on t'embrasse. Et du coup, je vais à la place vous lire un texte qui sera dans mon prochain recueil de poésie. Est-ce qu'on se balance le jingle chronique ou pas, Guillaume? Qu'est-ce que t'en penses?
C'est toi qui choisis.
Allez, je l'aime bien.
S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair. Chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
Pas d'objection.
Tous veilleurs dans nos petites cages, craintifs de l'immensité ancienne, rôdant autour du grillage comme un loup. Le chemin est ainsi fait qu'on nous harnache, ficelé, sanglé, cintré jusqu'à être pièce de gibier en chambre froide. Il est terrible, quand tout en soi danse, de sentir cette gangue des choses. C'est la stupeur du vent et de la lave, soudain prisonnier d'un tunnel sans fenêtre, ou de milliers de tonnes d'eau froide. C'est le mouvement en camisole. Certains jours, tandis que monte la lumière, une colère monte avec elle. Incandescente sur l'horizon, elle hurle, appelle le vent à plein poumon. Troue les murs, troue l'armure, vif, glisse-toi entre les briques, Zéphyr. Voici le nom que m'a donné l'immensité. Quand à travers le grillage, j'ai passé en papillon la trompe de mon espoir. Ah, le nectar d'un souffle sans barrière, le frisson de ces colonnes d'air où s'élever pour dévorer l'azur. Zéphyr, mon frère, comme toi, j'ai remonté la rivière de pourriture et de mélasse, cherché de la main gauche l'étoile du matin et de la droite celle du soir. Tout est là, dans l'or et le bleu qui frissonnent, où tout exulte et passe. Salut pour moi la déesse des fleurs et le vent du nord plein d'aiguilles. Emmène-moi près d'eux, je suis prêt à dissoudre mes lourdeurs de gibier dans ta danse. Chaque minute, en songe, je vois, mieux qu'hier, le pilier nimbé de la tour des vents. Et on s'écoute tout de suite le choix de musique de Camille, du coup. C'est un artiste qui s'appelle Flavien Berger et le morceau s'appelle Sobrancelia. Il est 13h57 et vous êtes toujours dans l'émission Coup de foudre. Et je me disais que suite à cette petite douceur que nous a envoyée Camille, décidément, j'ai eu à nouveau ce sentiment que j'avais éprouvé à la dernière émission de me sentir bien à ma place, apaisé dans ce studio. Voilà, ça m'a fait très plaisir encore une fois d'être là. Et puis, merci à tous et toutes et tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci Amélie et Alain d'être venus nous rendre visite.
Merci beaucoup à vous.
Et moi, je vous donne rendez-vous le 6 mai pour la 6e édition de Coup de Foudre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Et je précise aussi, pour celles et ceux d'entre vous qui apprécient Deezer, je vais essayer de faire en sorte qu'on soit aussi sur Deezer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Comme ça, vous pourrez aussi nous suivre sur cette plateforme. Sur ce, portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.